Le soleil brille, la vie est belle, et nous continuons notre traversée de la Bible. Aujourd'hui, on parle du livre d'Ézéchiel. C'est un livre un peu fascinant, presque unique dans la Bible, parce qu'on attaque la littérature dite apocalyptique. Alors l'apocalypse, forcément, ça fascine, hein, c'est normal. On attend tous la fin du monde. Enfin non, c'est passé finalement, je crois que c'était en décembre. Donc en fait, on est au-delà de la fin du monde. Je ne sais pas se montrer dans l'air. Bref. Alors, Ézéchiel est intéressant parce qu'il est dans le prolongement des prophètes qu'on a vus les semaines passées, Isaïe, Jérémie. Et en même temps, il nous introduit dans cet autre aspect de la littérature prophétique qui est caractérisé par l'apocalypse. Alors le mot apocalypse, c'est un mot grec, apocalypsis, qui veut dire révélation. Hein, c'est quand on montre quelque chose à quelqu'un, quand on révèle quelque chose à quelqu'un. Et c'est souvent caractérisé par des visions. J'ai une révélation, cette révélation, soit j'ai une révélation parce qu'on me l'a dit, soit parce qu'on me l'a montré. Ici, en l'occurrence, on va avoir droit à tout ça. Et notamment, Ézéchiel va voir des choses. Alors, il va avoir des révélations. Alors, la caractéristique de l'Apocalypse, bien sûr, c'est des révélations de choses qu'on ne pourrait pas savoir autrement. C'est des choses qu'on ne pourrait pas connaître humainement. Donc, par exemple, on va voir la cour céleste, on va voir Dieu dans le ciel, etc. On ne peut pas aller dans le ciel en tant qu'humain. Dans le livre d'Enoch, il y a un ange qui emmène Enoch au-delà de l'horizon et qui lui montre ce qu'il y a au-delà de l'horizon et qui lui montre, par exemple, les réserves de neige et de pluie, etc., etc. Quand vous les voyez arriver, poindre à l'horizon ces nuages, cette pluie, etc., vous dites, mais d'où est-ce que ça vient? Quand vous voyez le soleil sortir au-delà de l'horizon, vous dites, mais d'où ça vient? En tant qu'être humain, je parle évidemment il y a 2000 ou 3000 ans, c'est fascinant, on se dit, mais où est-ce que c'est? C'est complètement, on ne peut pas atteindre ces endroits-là. Donc, si on est transporté en vision dans ces endroits-là, on va obtenir des révélations qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. C'est ça qui caractérise l'Apocalypse. Et donc, Ézéchiel nous introduit dans ce type de littérature prophétique. Autre différence qu'on peut observer chez Ézéchiel par rapport à Isaïe ou Jérémie, c'est le discours à la première personne, qui est ultra présent dans le livre d'Ézéchiel. Précédemment, il y avait... Alors, dans le livre d'Isaïe, on a pratiquement rien de biographique. On ne sait pas grand-chose d'Isaïe. On a le chapitre 6 avec sa vocation. On a le petit passage intermédiaire, les chapitres 36-39... Petit passage historique. Sinon, on ne sait pas grand-chose de lui. Avec Jérémie, c'était un petit peu mieux. Notre curiosité, notre goût pour les anecdotes, les histoires, notre côté people, des magazines people était satisfait parce qu'on voyait un petit peu les pauvres mésaventures de ce cher Jérémie qui se retrouve trimballé malgré lui, etc. Bref, donc on en savait un peu plus sur Jérémie. Là, sur Ézéchiel, on a encore plus l'aspect personnel. Hein, on s'approche davantage encore du personnage du livre éponyme parce qu'il parle à la première personne. Donc là, on est content. Alors, il parle à la première personne. Cela dit, on ne saura pas forcément grand-chose de sa vie, finalement, au niveau de la biographie. Ce qu'il va nous révéler, c'est justement les révélations qu'il reçoit. Alors sinon, si donc là on fait le point un peu sur ce qui est nouveau chez Ézéchiel par rapport à Isaïe ou Jérémie. Pour le reste, ce qui est des grandes thématiques, je vous l'avais dit déjà avec Isaïe en disant que vous avez lu Isaïe, vous avez tout lu, pratiquement. Bon, j'avais peut-être un petit peu exagéré, mais disons que les thèmes, ils sont là. C'est-à-dire qu'on va avoir d'une part des oracles de jugement, on va avoir des discours prophétiques qui condamnent l'iniquité du peuple, le péché, c'est mal, etc., etc. Et bien sûr, en premier lieu, il y aura l'infidélité du peuple. Le peuple n'obéit pas à Dieu, ne respecte pas ses commandements. Il est infidèle. Il va servir d'autres dieux, etc., etc. Donc, vous allez me dire, tout ça, on sait déjà. Rien de nouveau de ce point de vue-là. On va aussi avoir des jugements contre les autres nations. Et ça, rappelez-vous, on a vu ça dans Isaïe, où c'est presque devenu un genre, un topos, où on fait la liste de toutes les nations environnantes, et elles en prennent toutes pour leur grade. On l'avait eu chez Isaïe, on l'a vu la semaine dernière chez Jérémie, on va y avoir droit encore aujourd'hui chez Ézéchiel. On va passer en revue toutes les nations environnantes et on va dire tout le mal qu'on pense d'elles. En disant évidemment qu'elles sont encore pires. C'est-à-dire que si on condamne le peuple d'Israël, il ne faut pas croire qu'il est le seul coupable et que les autres nations sont bonnes. On veut au contraire dire non, attendez, attendez, elles sont encore pires. Et puis enfin, évidemment, il y a la prophétie liée à l'encouragement, la consolation, la restauration. On a toujours, dans le discours prophétique, c'est bien de dire... c'est une chose de dire ça va pas, c'est mal ce que vous faites, et si vous continuez, le châtiment va tomber. Mais il faut toujours rééquilibrer en disant, cela dit, Dieu ne se réjouit pas spécialement de votre malheur, ça n'est pas la finalité. En fait, la finalité, c'est bien sûr la restauration du peuple. Et donc, on va, là encore, terminer le livre avec des oracles de restauration. Alors, ça apparaît dans la structure du livre. On s'intéresse à Jérusalem dans un premier temps. Donc, on va condamner le péché du peuple jusqu'au chapitre 24. Donc, ça, c'est la première partie du livre. Alors, deux, trois premiers chapitres servent d'introduction. On peut soit les considérer comme l'introduction à l'ensemble du livre, soit l'introduction à cette section, jusqu'au chapitre 24. Ensuite, à partir du chapitre 25, on va s'intéresser aux autres nations, et là, on aura les fameux oracles contre les nations, chapitre 25 à 32. Et puis ensuite, le chapitre 33 va marquer une rupture, puisque les oracles qui avertissaient le peuple en disant « si vous ne vous repentez pas, le jugement va tomber sur vous », eh bien justement, ça se produit. C'est-à-dire, Jérusalem est détruite. Maintenant, ça ne sert plus à rien de dire au peuple « attention, attention, si vous continuez à faire le mal, le châtiment va tomber », puisque ça y est, c'est fait. Donc là, on bascule vers un discours qui va être davantage un discours qui s'intéresse à l'avenir et qui dresse un portrait de l'avenir qui sera renouvelé avec l'idée d'une nouvelle alliance, l'idée d'un nouveau roi, le Messie, fils de David, etc. Donc ça, on connaît. Un avenir, la reconstruction de Jérusalem. On aura des chapitres entiers qui vont s'intéresser à la nouvelle Jérusalem, au nouveau temple, etc., etc. Donc là, on est porté vers un bel avenir. Donc ça, c'est chapitre 33 à 48. Donc grosso modo, trois sections. 1 à 24, 25 à 32, et puis 33 à 48. Alors ces trois sections, vous pouvez les regrouper en mettant, les regrouper de façon à peu près équilibrée. Vous pourriez dire, par exemple, que jusqu'au chapitre 24, c'est contre Jérusalem. Donc le peuple en prend pour son grade, alors qu'à partir du chapitre 25, c'est plutôt positif pour le peuple dans le sens où on condamne les autres nations, donc ça soulage, disons, le peuple de dire « bon, ça va », c'est-à-dire qu'en fait, les autres sont coupables, donc on annonce quelque part la condamnation des autres nations. Et évidemment, par symétrie, si on condamne les autres nations, on restaure le peuple. Donc de ce point de vue-là, vous pourriez regrouper, mettre les chapitres 1 à 24 d'un côté, et puis ensuite 25 à 48 de l'autre. Ça vous fait 24-48, vous voyez, ça vous coupe la poire en deux, c'est facile à retenir. D'un autre côté, on peut aussi regrouper, donc ça fait la première partie toute seule et puis les deux autres parties ensemble, ça fait deux parties, disons, de gabarit plus ou moins égal. On peut aussi regrouper les deux premières sections, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 24, puis 25 à 32, en disant, ça c'est la partie condamnation, on condamne tout le monde, Israël essentiellement, évidemment, hein, jusqu'au chapitre 24, puis accessoirement les nations, et ensuite la vraie rupture serait à partir du chapitre 33, et là on aurait 33-48 qui serait la deuxième partie du livre, et là on aurait grosso modo deux parties, rappelez-vous on avait parlé dans Isaïe, avec Proto-Isaïe, Deutéro-Isaïe, Proto-Isaïe, on condamne le peuple, jusqu'au chapitre 36, le petit interlude historique, et puis ensuite les chapitres, il y a la consolation, à la restauration à partir du chapitre 40. Et donc, on aurait de la même manière deux parties avec la charnière qui ne serait pas dans Isaïe, c'est le chapitre 36, 39, etc. Là, le chapitre charnière, ce serait le chapitre 33. Alors, sauf que du coup, ça fait deux parties vraiment déséquilibrées parce qu'au niveau taille, vous avez 32 chapitres d'un côté sur 48. Quoi. Ça fait une grosse première partie, une petite deuxième partie. D'un autre côté, le chapitre 33 est clairement, on va le voir, est clairement parallèle au premier chapitre, les trois, quatre premiers chapitres. C'est-à-dire que vous allez voir, on revient sur des choses qui ont été dites dans l'introduction, les premiers chapitres, les quatre premiers chapitres. On va les retrouver au chapitre 33. Donc on a l'impression qu'on reprend, on reprend au même point, on compare et on passe à autre chose. Alors du coup, si ça fait deux parties de taille inégale, alors on peut soit dire bah, ça ne dérange pas l'auteur spécialement, on peut aussi s'interroger sur justement l'histoire de la rédaction de ce livre, en disant peut-être que cette première partie qui est très grosse, qui est, du coup serait hypertrophiée, peut-être qu'en fait, je ne sais pas, par exemple, les chapitres 25 à 32 ont peut-être été ajoutés ultérieurement, par exemple, ce qui a ajouté de l'embonpoint à cette première partie. Ou, vous allez le voir, dans cette première partie, même quand il s'agit des oracles contre Jérusalem, on a des répétitions. On a une première vision, une deuxième vision, on redit plus ou moins les mêmes choses. Donc il est possible que cette première partie, elle est gonflée. Et qu'on ait ajouté de plus en plus de choses, de plus en plus d'oracles, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est pour donner une structure d'ensemble de ce livre. Au niveau des procédés prophétiques, on va donc avoir les discours prophétiques habituels, mais comme je disais, ce qui est intéressant, c'est de voir ces aspects de vision. Il voit des choses. Il y a également... En fait, les moyens de la révélation sont multiples. Je pense que c'est dans le livre d'Ézéchiel, on a vraiment la plus grande multiplicité des moyens de la révélation. C'est-à-dire que c'est pas simplement une parole qui est adressée au prophète et le prophète qui répète ces paroles. On a, comme je disais tout à l'heure, ces visions, ce côté apocalyptique, on voit des choses absolument fabuleuses, beaucoup de métaphores, des images. Alors, soit des métaphores qui représentent des éléments connus, on va retrouver la métaphore de la vigne, par exemple, qu'on a eue chez Isaïe, qu'on a retrouvée chez Jérémie, qu'on va encore trouver chez Ézéchiel. On va avoir d'autres métaphores un peu plus sophistiquées. Et on va également avoir des images qui sont manifestement, qui n'ont pas de correspondance dans la vie de tous les jours. Donc on est vraiment là dans des visions avec des objets, mais on sent qu'on dépasse le cadre de ce qui est représentatif dans l'environnement. Et c'est là qu'on passe dans ce côté un peu apocalyptique, on voit des choses qu'on ne verrait pas d'ordinaire. On va également trouver, ce qu'on avait vu chez Jérémie, ces actes prophétiques, c'est-à-dire qu'on met en scène, on va avoir cet acte symbolique, je vais me mettre dans une posture, je vais prendre un objet, je vais faire une chose, je vais avoir cet acte, ce comportement, cette mise en scène. Donc ce n'est pas simplement au niveau des paroles, c'est également au niveau du comportement, cet acte prophétique qui va, là encore, servir d'illustration. Et ça, on va le retrouver, on l'a vu chez Jérémie, on va le retrouver encore plus chez Ézéchiel. Alors, regardons la première partie. Les trois premiers chapitres sont sert d'introduction, cadre général. On a une vision. Le chapitre premier nous donne la grande vision, avec quelque chose qui est assez difficile à représenter. Hein. On voit quatre êtres vivants au verset 5. Chacun de ces quatre a quatre faces, quatre ailes. Donc vous imaginez un peu à quoi il ressemble. Enfin, justement, on a du mal à imaginer. Les quatre faces, on nous les décrit au verset 10. Un homme, un lion, un taureau et un aigle. Donc, vous avez quatre visages. Chacun de ces quatre êtres a quatre visages. Et puis ensuite, on voit des roues, verset 15. Et chaque roue, verset 16, à la fin du verset 16, paraît être au milieu d'une autre roue. Donc il y a ces roues qui sont un peu entrecroisées. Et leurs jantes sont remplies d'yeux, nous dit-on, verset 19. Une espèce de grande roue dont les jantes sont remplies d'yeux et qui sont plus ou moins entrecroisées. Et puis au-dessus de tout ça, il y a la voûte céleste, verset 22, avec un trône, verset 26. Et là, on voit du feu, verset 27, une clarté, verset 28, c'est la gloire du Seigneur. Donc, imaginez un peu cette vision, des choses... Là, on est vraiment dans le cadre de choses difficilement représentées. C'est pour ajouter au côté un peu spectaculaire, surnaturel. Et là, ça plante le décor, c'est-à-dire que Ézéchiel est en contact avec le divin. Alors, rappelez-vous, dans Isaïe, on avait quelques petites choses assez sympathiques. Par exemple, ces séraphins qui ont six ailes. Donc, on avait des choses un petit peu originales. Mais là, on va plus loin, quoi. C'est la surenchère. Et de la même manière que le prophète se retrouve en contact avec le divin, c'est là qu'il reçoit sa révélation et sa vocation au verset 2. Il dit, donc chapitre 2, pardon, verset 3, « C'est moi qui t'envoie vers les Israélites. » Autrement dit, le prophète est avant tout un envoyé, c'est un messager, un porte-parole. Verset 7, « Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde. » Donc, le prophète reçoit sa vocation de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui choisit d'être prophète, il est en contact avec le divin, c'est un contact particulier auquel le commun des mortels n'a pas accès en temps normal. Il reçoit un message de la divinité et il va transmettre ce message. Et cette transmission du message n'est pas contingente, ne dépend pas de la réception que les humains en font. On n'est pas là pour leur faire plaisir, pour dire des choses, etc. Autrement dit, sa responsabilité, c'est de dire. Il n'est pas responsable de la réaction des autres, hein, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde. Rappelez-vous, dans Isaïe 6, on disait même, tu vas leur parler, mais ils ne comprendront pas. Ils n'écouteront pas, ils n'obéiront pas, ils n'en feront rien. Mais dans Isaïe 6, on disait, mais c'est quand même important que tu le fasses pour que, justement, une fois que les événements se produisent, qu'ils ne disent pas, ah, mais alors Dieu ne nous avait rien dit. Ils ne pourront pas prendre ça comme excuse. Et là, de la même manière, c'est exactement ce qu'on trouve ici, verset 5, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, car c'est une maison rebelle, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Et ils n'auront pas d'excuse de dire, mais Dieu ne nous a pas prévenus. Alors ensuite, rappelez-vous, dans Isaïe 6, on avait ce charbon qui venait purifier. Dans Jérémie aussi, on avait la notion de la purification des lèvres, pour insister sur le fait que ce qui sort de la bouche du prophète, ce ne sont pas ses propres paroles, mais ce sont bien les paroles qui viennent de Dieu. Ici, on a une autre image, qui est celle du rouleau que l'on mange. On lui dit déjà au verset 8, chapitre 2, verset 8, à la fin, « Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Et là, ce qu'on voit, verset 9, c'est un livre, un rouleau. Et au chapitre 3, verset 1, on lui dit « Mange ce rouleau ». Verset 3, « Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau ». Donc la métaphore, c'est-à-dire qu'il, c'est, évidemment, c'est pas le support qui compte, c'est les paroles. Ce rouleau, il contient, c'est le message que contient ce rouleau, et c'est un message divin. Donc il doit le manger, c'est-à-dire il doit le consommer, l'intérioriser, et ensuite, il va s'en nourrir, et c'est ce message-là qu'il pourra retransmettre au peuple. Verset 10, chapitre 3, « Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dis. » Donc on est vraiment là, hein, c'est sa responsabilité. Et d'ailleurs, le chapitre 3 insiste également sur la responsabilité du prophète. Il doit donner ce message, il doit délivrer ce message que Dieu lui donne, peu importe la réaction. Il dit, on a ça dans la deuxième partie du chapitre 3, verset 18, « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, etc., ce méchant mourra dans sa faute, mais son sang, je te le réclamerai. » Autrement dit, si je te demande d'avertir quelqu'un dont la conduite est mauvaise pour qu'il change de conduite, si tu ne l'avertis pas, tu seras responsable. Verset 19, « Mais si toi tu avertis le méchant et qu'il ne revienne pas de sa méchanceté, de sa voix méchante, il mourra dans sa faute et toi tu sauveras ta vie. » Autrement dit, si tu avertis et qu'il n'en fait aucun cas, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable de sa réaction. Ce dont tu es responsable, c'est de ce que toi tu dis. On pourrait appeler ça de la non-assistance à personne en danger. Donc ça, ça fait partie, vous voyez, des responsabilités prophétiques. Donc vous voyez comment, tant chez Isaïe que Jérémie qu'Ézéchiel, on insiste sur le fait que ces prophètes-là ne se sont pas improvisés prophètes. Ils ne cherchent pas à dire ce qu'ils ont envie de dire ou à dire ce qui va plaire aux gens. On insiste là-dessus, et c'est bien sûr le contraste avec les autres prophètes et la condamnation des faux prophètes. On l'a vu la semaine dernière dans Jérémie, on l'avait régulièrement, là, c'est encore quelque chose de courant chez les prophètes, on condamne justement les faux prophètes qui sont apparemment nombreux et qui sont tout le contraire de ce qu'on nous présente ici. Donc vous voyez comment ces chapitres-là posent le cadre de l'activité prophétique d'Ézéchiel. On a également un cadre historique qui nous est donné. Et à plusieurs reprises dans le livre d'Ézéchiel, on va avoir des indications chronologiques. Alors rappelez-vous, dans Jérémie, c'était le cas dans une des sections de Jérémie. Là, c'est quand même dans l'ensemble du livre d'Ézéchiel. Vous voyez, je reviens au chapitre 1er, verset 2, on nous dit « Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de l'exil du roi Joachim. » Alors si vous regardez votre chronologie, ça vous donne grosso modo 593 avant notre ère. Autrement dit, l'activité du prophète Ézéchiel, et ça va durer une vingtaine d'années, hein, jusqu'en 573, peut-être 571, quelque chose comme ça. Donc pendant une vingtaine d'années, l'activité d'Ézéchiel va se dérouler à ce moment-là. Et si vous vous souvenez de votre chronologie, la destruction de Jérusalem, c'est 587. Autrement dit, on est grosso modo à cheval. On a une vingtaine d'années, deux décennies, à cheval sur la destruction du temple de Jérusalem. Quelques années avant, quelques années après. Et je disais, cette destruction du temple, c'est le fameux chapitre charnière au chapitre 33. Donc avant, on a une partie de la population qui a déjà été déportée à Babylone. On en reparlera avec Daniel, par exemple. Il fait partie de cette élite judéenne qui est déportée à Babylone dès le tournant du 6e siècle. Donc il y a déjà une partie de la population qui est partie à Babylone. L'autre est restée à Jérusalem. En espérant que les choses s'améliorent, et en fait les choses ne vont pas s'améliorer, le temple sera carrément détruit. Et donc Ézéchiel, lui, fait partie de cette élite qui est partie à Babylone avant la destruction du temple. Donc il est censé être à Babylone, on nous le dit, regardez au chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15, il arrive à Tel Aviv. Alors, vous connaissez peut-être Tel Aviv aujourd'hui, c'est la capitale d'Israël. C'est une ville récente et le nom est récent. Évidemment, on lui a donné ce nom récemment en mémoire du nom Tel Aviv qui apparaît ici. C'est le lieu où les exilés judéens s'installent à Babylone. Tel Aviv, ce n'est pas du tout Tel Aviv en Israël tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est Tel Aviv à côté de Babylone. Donc, dans la banlieue de Babylone, si vous voulez, vous avez le lieu où les Judéens s'installent, ils appellent ça Tel Aviv. Et c'est parce que c'est la nouvelle ville des Judéens, entre guillemets, qu'on a donné ce nom à cette nouvelle ville moderne qui a été créée, je pense, au XXe siècle, quelque chose comme ça, fin XIXe, début XXe, je ne connais pas bien l'histoire récente. Mais en tout cas, voilà, c'est une ville tout à fait moderne, Tel Aviv. À côté de Tel Aviv, il y a la ville de Jaffa, qui, elle, en revanche, est très ancienne. Si vous sortez de Tel Aviv, vous pouvez même le faire à pied, hein, vous longez la plage, au sud de Tel Aviv, et vous marchez, je sais pas, sur 2-3 km, enfin, un peu plus, peut-être, je sais pas, bref, une heure de marche, même pas, trois quarts d'heure, vous arrivez à Jaffa, et ça, c'est une ville très ancienne. Jaffa, c'est la ville de Yapou, dans les textes acadiens, Yafo, en hébreu biblique, Joppa ou Jopé, dans le Nouveau Testament. Donc, c'est une ville qui remonte, qui a au moins 3500 ans d'âge, quelque chose comme ça. Donc la ville antique, c'est Jaffa. Mais plutôt que de garder ce nom aujourd'hui, ils ont construit une ville juste à côté, ils l'ont appelée Tel Aviv. Bref, ici, dans le cadre d'Ézéchiel, Ézéchiel se retrouve avec ses exilés judéens à Babylone, mais de temps en temps, il va faire des allers-retours. Alors comment, me direz-vous? Eh bien, c'est simple, il est emporté par un souffle. Alors voyez, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment chez Ézéchiel, c'est l'action du souffle de Dieu. Le souffle revient constamment. Le souffle de Dieu est sur lui, le souffle de Dieu le soulève, l'emporte, le dépose. Donc il y a cette idée du souffle de Dieu, également de la main de Dieu qui revient régulièrement. La main de Dieu est sur lui. Donc la main, le souffle, vous voyez comment on vient désigner Dieu par la façon dont il interagit. La main de Dieu, c'est l'instrument de l'interaction, représente l'interaction entre le divin et le monde. Dieu agit par sa main. La main, c'est le symbole de l'action. Le souffle, c'est le symbole de l'action invisible. Si vous regardez les arbres dehors, bon là, ils n'ont pas beaucoup de feuilles à cette époque-là de l'année, mais si vous êtes au printemps, qu'il y a du vent, ben, vous voyez les branches bouger, et pourtant, vous ne voyez pas ce qui fait bouger ces branches. Donc le souffle, c'est le symbole de cette action qui interagit avec le monde visible, mais c'est une force invisible. Alors le mot souffle, bien sûr, on va le traduire plus tard par le mot esprit. Et c'est ce qui donne aujourd'hui quand on parle de l'esprit de Dieu. Et même dans le christianisme, on va en faire une personne et on va dire c'est la troisième personne de la Trinité, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Mais primitivement, dans ces textes-là, c'est le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'interaction, cette force, cette action invisible de Dieu qui interagit avec le monde visible. Alors regardons maintenant un petit peu ces oracles. Tout d'abord contre Jérusalem, hein, je dis jusqu'au chapitre 24, on va avoir une série d'oracles. Le premier cycle, on va dire c'est jusqu'au chapitre 7, hein, 4 à 7, forme une unité littéraire qui annonce la destruction de Jérusalem due à l'idolâtrie, grosso modo. Alors, les chapitres 4-5 eux-mêmes annoncent cette destruction par deux images, deux actes prophétiques. Vous voyez, chapitre 4, « Toi, humain, prends une brique. » Et donc, il prend cette brique. Et puis ensuite, verset 3, « Prends une poêle de fer. » Verset 4, « Couche-toi sur le côté gauche. » Et alors, il lui dit, « 390 jours. » Imaginez, 390 jours, c'est un an. Donc, Ézéchiel reste un an couché à gauche. Ensuite, verset 6, « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit. » Pendant 40 jours. Donc, vous voyez, c'est, d'un côté, c'est la faute d'Israël, de l'autre côté, la faute de Juda. Donc, royaume du nord, royaume du sud. Etc., etc. « Je mettrai des cordes sur toi, de sorte que tu ne puisses pas te tourner d'un côté et sur l'autre. » Ben oui, parce que quand on dort, moi, je ne sais pas comment ça se passe quand vous dormez, mais des fois, on se retourne, quoi. Alors là, il ne faut pas, puisque tout le but de la manœuvre, c'est de représenter le péché de l'un, de l'autre, etc., etc. Ensuite, on lui dit qu'il va se rationner au niveau de la nourriture, verset 10. On dit par ailleurs que pour faire cuire sa nourriture, il la fera cuire sur des excréments humains, verset 12. Désolé hein, pour ceux qui mangent, bon appétit. Voilà, mais il doit faire cuire sur des excréments humains. Et tout ça, bien sûr, ce sont des actes symboliques qui sont choquants et c'est le but. Le but, c'est de choquer. Il dit, verset 13, c'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Donc on annonce la dispersion du peuple. Alors évidemment, le prophète, il n'est pas très réjoui. Il se dit, mince, si j'avais su, j'aurais peut-être pas signé mon contrat de prophète. Alors du coup, il essaie de négocier. Alors verset 15, Dieu lui dit, je vais te donner de la bouse de vache au lieu d'excréments humains. Et tu feras ton pain dessus. Donc, je ne sais pas si c'est mieux, peut-être un peu mieux. Bah, bref. Difficile de négocier avec Dieu quand même. Hein. Chapitre 5, encore, voyez, ces actes prophétiques. Prends une épée acérée, verset 1er. Tu t'en serviras comme d'un rasoir de barbier, tu la prendras et tu la passeras sur ta tête et sur ta barbe. Donc, voyez, il doit se raser. Il se rase le crâne, il se rase la barbe. Peut-être je vais faire ça. Vous allez voir un jour débarquer, j'aurai le crâne rasé. Bon, je le ferai pas avec une épée, hein. Cela dit, je ne prendrai pas le risque. Voyez encore, alors ensuite, il doit prendre le tout, il doit brûler un tiers dans les flammes, verset 2. Ensuite, il y a un tiers qui sera frappé avec la lame et un autre tiers qui sera disséminé au vent. Et puis, c'est tout, parce qu'il n'y a que trois tiers. Hein. S'il y a quatre tiers, il y a un problème. Et donc, là encore, tous ces gestes, ils ont une symbolique. Verset 5, c'est Jérusalem. Hein. Dieu explique, voilà, c'est ce qui se passe à Jérusalem. Et il explique ce qui va se passer. On explique que Jérusalem sera attaquée, sera dévastée, qu'ils seront dispersés, etc. etc. Et puis les fameux trois tiers là, qu'on avait au verset 2-3, on les retrouve plus loin, verset 12. Un tiers des habitants mourra par la peste, ou sera exterminé par la famine. Un tiers tombera par l'épée, et j'en disséminerai un tiers à tout vent. Donc, vous voyez, c'est... Tous ces gestes qu'il fait, ils ont une symbolique. Le chapitre 6 explique davantage sa pesantie sur le péché du peuple, l'idolâtrie, bien sûr. Il est question des hauts lieux, des autels, des idoles, etc. etc. Bon. Leur cœur prostitué, verset 9, donc on revient sur ce cas de la prostitution qu'on retrouve un peu plus tard. Au chapitre 8, on a un nouveau cycle de vision qui là encore condamne l'iniquité du peuple et en particulier l'idolâtrie. On revient au chapitre 8 à l'idolâtrie. Et là, le souffle de Dieu l'emporte. On nous dit même, hein, verset 3, Dieu étendit une forme de main, donc il y a la main et le souffle, vous voyez, il me saisit par une mèche de ma chevelure, un souffle m'envela. M'enleva pardon, entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Vous voyez, c'est, je vous disais, Ézéchiel, normalement, il est à Babylone. Hein, il est avec les premiers déportés avant la destruction du temple. Mais pour aller à Jérusalem, à pied, ce sera un peu long. Donc il y a une main qui le saisit par les cheveux, qui le soulève, et il y a un souffle qui l'emporte. Ça va faire un peu mal, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait une chevelure épaisse. Ou... Bref, et donc là, il voit à Jérusalem, et donc Dieu lui montre ce qui se passe à Jérusalem dans le temple. Le temple n'est pas encore détruit, et on lui montre que dans le temple, il passe à travers les murs, enfin disons, il fait des trous dans les murs, il passe, enfin, etc., et il voit ce qui se passe dans toutes les pièces, dans toutes les salles du temple, où les gens ont des images, voyez, on nous dit, il y a une effigie au verset 3, au verset 10, il y a toutes sortes d'images de bestioles, gravés sur le mur. Au verset 14, il est question de Tammuz. Au verset 16, il se prosterne vers l'est devant le soleil. Bref, on donne toute la liste de cette infidélité, de cette idolâtrie du peuple. Et donc, du coup, forcément, au chapitre 9, on explique le châtiment qui va tomber sur Jérusalem. Et du coup, chapitre 10 et 11, on explique que Dieu, du coup, se retire du temple. C'est ce qu'on a sur l'ensemble des chapitres 10 et 11. C'est-à-dire que Dieu dit, le temple est censé être la demeure de Dieu. Dieu refuse d'être dans cette demeure, il s'en va. Et on va retrouver le contraire au chapitre 43 tout à la fin. Donc notez tout de suite qu'en fait, vous allez voir l'inverse, c'est-à-dire que Dieu va revenir dans le temple, le nouveau temple en vision. 43. Le chapitre 12 annonce l'exil, donc non seulement la destruction du temple, mais même, on va plus loin en annonçant l'exil, avec là encore un acte symbolique. Il lui dit au verset 3, « Fais ton paquet pour l'exil et pars en exil en plein jour sous leurs yeux. » Donc voilà, pour avec son petit baluchon, etc. Il se dit, « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je pars en exil. » Et verset 11 dit, « Je suis un présage pour vous. Ce que j'ai fait, c'est ce qui s'accomplira pour eux. Ils iront en exil. » Donc, plutôt que de dire « Attention, vous allez partir en exil », il y a ce côté de mise en scène. « Je fais mon baluchon, je m'en vais. » Aux yeux de tous, il dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou. » Et c'est là qu'il explique. Alors cela dit, on retrouve également dans Ézéchiel, dans tous ces oracles de destruction, la théologie du reste, que je vous avais expliqué dans Isaïe. Regardez par exemple verset 16, toujours chapitre 12. « Je laisserai parmi eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste. » Afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront. Ainsi, ils sauront que je suis Yahvé. C'est-à-dire que la destruction n'est pas complète, il y a des gens qui restent pour témoigner, pour dire ce qui s'est passé, et bien sûr, ensuite, pour la restauration. Alors ensuite, il y a la question de la fiabilité des oracles et des prophéties d'Ézéchiel. On pourrait dire, les gens peuvent se dire, il est fou, on n'écoute pas. Donc, il insiste d'une part sur le fait que c'est une parole qui est sûre, à la fin du chapitre 12. Hein, les gens se plaignent, hein, ils disent, verset 22, « Les jours se prolongent et aucune vision n'aboutit. » Autrement dit, toi, Ézéchiel, tu nous dis « Attention, 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 attention. » Nous, on voit rien, c'est un peu Pierre et le loup, quoi. Tu nous dis « Attention, la destruction de Jérusalem, attention, etc. » Mais les années passent et il se passe toujours rien. Donc, ils commencent à douter de la fiabilité d'Ézéchiel. Verset 23, Dieu dit à Ézéchiel de dire, « Dis-leur au contraire, les jours approchent où toute vision s'accomplit. » Verset 25, c'est une parole qui s'accomplira sans délai. « De vos jours, maison rebelle, je dirai une parole et je l'accomplirai. » Autrement dit, de votre vivant. Verset 27, certains disent, « La vision qu'il a n'est que pour des jours lointains. » Il parle en prophète pour des temps éloignés. Donc les gens disent, « Oui, d'accord, c'est pas pour tout de suite. » Et non, au contraire, « Toute parole que je dirai s'accomplira sans délai », verset 28. Donc il y a ce côté de dire ce que Ézéchiel dit, c'est pas n'importe quoi, c'est pas non plus pour très loin, c'est maintenant. Et ça, donc la question de la crédibilité du prophète, on la complète au chapitre 13 par un chapitre contre les faux prophètes. On avait déjà eu droit à ça dans Jérémie, et là on y a droit à nouveau, où les gens... parlent de leur propre cœur, nous dit-on, verset 2. Ils ont leur propre inspiration, sans avoir rien vu, verset 3. Autrement dit, ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien vu, pas de vision, pas de révélation. Verset 6, leurs visions sont illusoires, leurs divinations mensongères. Ils disent, déclaration du Seigneur, or le Seigneur ne les a pas envoyés. Donc ça, c'est le problème des faux prophètes. Problème récurrent, puisque vous voyez, on les retrouve... régulièrement chez les prophètes. Verset 10, ils égarent mon peuple en disant tout ira bien, quand rien ne va. On a vu ça, un shalom, shalom. Non, non, pas de shalom du tout. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici, par rapport à Jérémie, on parle aussi des prophétesses. Hein. On condamne les prophètes, mais aussi les prophétesses. Vous voyez, verset 17, tourne-toi vers les filles de ton peuple qui se font les prophétesses de leur propre cœur. Donc il y a des fausses prophétesses. Il y a aussi des vraies prophétesses, hein, mais dans l'occurrence, il y a des fausses prophétesses. Alors on voit des trucs, c'est intéressant, hein, elles cousent des bandelettes à tous les poignets, font des voiles pour la tête, etc. On a des petites allusions comme ça, des pratiques, des rituels qui sont finalement mal documentées par ailleurs. Donc il faut faire des petites enquêtes comme ça pour voir un petit peu ce qui se pratiquait. On a d'autres textes où on voit que manifestement des gens font des incisions. Hein, on l'avait vu dans Élie, les prophètes de Baal, etc. Donc c'est à droite à gauche comme ça qu'on peut glaner quelques informations sur les réalia, la réalité de ce qui se passait à l'époque. Donc apparemment les bandelettes et les voiles, là, ces deux petites choses, on les retrouve un peu plus loin, verset 20-21, c'est caractéristique des prophétesses. Les prophètes, eux, n'ont pas de bandelettes et de voiles. Alors, je ne sais pas si c'est déjà des signes de coquetterie. Bref, je vous laisse à votre appréciation. Donc, je dis ça pour celles qui voudraient devenir des prophétesses. Vous voyez, il faut arriver à se démarquer des hommes prophètes. Alors, chapitre 14, on revient sur l'idolâtrie. On avait déjà parlé au chapitre 6, au chapitre 8. À la fin du chapitre 14... On insiste à nouveau sur le fait que le jugement est assuré, c'est-à-dire que rien ne peut l'en empêcher. Hein, on avait déjà vu le chapitre 12, ah, mais est-ce que ça va arriver ? Là, c'est sûr qu'il va arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'on mentionne trois hommes, verset 14, donc chapitre 14, verset 14, Noé, Daniel et Job, qu'on retrouve au verset 20, et ce sont trois personnages mythologiques. Et le Daniel que vous voyez là n'est pas le Daniel du livre de Daniel, du moins pas encore. J'ai écrit un article dans un livre qui s'appelle « Le jeune héros ». Et vous pouvez lire ce livre, que j'ai par ailleurs édité. Et s'il n'y a que mon chapitre qui vous intéresse, vous pouvez lire que mon chapitre. Il est d'ailleurs, vous pouvez le télécharger sur mon site internet en PDF, michaellongla.fr. Et là, j'explique l'histoire de Daniel, de ce Daniel qui correspond en fait au Daniel d'Ougarit. Des textes ougaritiques au deuxième millénaire avant notre ère, et en quoi est-ce que ce Daniel est lié à Noé et à Job, qui en fait sont tous des trois hommes justes au milieu de gens injustes, et qui arrivent eux à accomplir des actes de justice et à sauver leurs enfants par leur acte de justice. Et là, on dit que même eux qui sont réputés pour avoir réussi à épargner leurs enfants par des actes de justice, eh bien cette fois-ci ils ne pourront rien y faire. Ils ne pourraient rien y faire. Oui. Alors, cela dit, on annonce également, là encore, un reste, des rescapés, verset 22, il restera des rescapés. Pardon ? Verset 14, donc chapitre 14, verset 14, verset 20, on a trois hommes, Noé, Daniel et Job. Et Noé, Daniel est entre Noé et Job, hein ? Alors, c'est clairement pas le Daniel du livre de Daniel. Chapitre 15, on nous parle de la vigne, mais ça, on a déjà vu ça, hein, dans Isaïe chapitre 5, Jérémie chapitre 2, je crois, etc. Chapitre 16, on revient sur la question de l'idolâtrie avec la métaphore que vous connaissez bien, qui est la métaphore de l'épouse infidèle ou de la prostituée. C'est-à-dire que Dieu a épousé Israël. Israël, le peuple de Dieu, c'est son épouse. Ils ont conclu une alliance, de la même manière qu'un Dieu conclut une alliance avec son peuple, un homme conclut une alliance avec une femme. Eh bien là, c'est une femme qui a été infidèle. Elle est allée voir d'autres hommes, entre guillemets, c'est-à-dire ici d'autres dieux. Elle est allée adorer d'autres dieux. Et donc, il y a cette métaphore de l'infidélité qu'on retrouve, qui est aussi qualifiée de prostitution, verset 15. Alors le problème ici, c'est on va même plus loin que la prostitution, puisqu'on explique qu'Israël, en principe, une prostituée, elle se fait payer pour ses services. Hein, c'est la caractéristique de la prostituée. Or là, Israël ne s'est même pas fait payer pour ses services, au contraire, c'est elle qui apporte des offrandes aux autres dieux. Donc tu vois, on dit, verset 33, « À toutes les prostituées, on donne un cadeau. Quant à toi, c'est toi qui as donné ton cadeau à tous tes amants, les autres dieux. » Verset 34, tu as fait le contraire des autres femmes dans ta prostitution. On ne te recherchait pas. En donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire. Donc c'est pire. Tu es pire qu'une prostituée. Ouais, c'est, imaginez un peu cette... Alors on compare ici la Judée et la Samarie, hein, royaume du Nord, royaume du Sud, comme étant deux sœurs. Et donc on disait, c'était ta sœur aînée qui était coupable des mêmes péchés, qui a déjà été condamné, c'est la destruction de Samarie en 722, et toi, finalement, tu fais pareil. Et c'est même pire. Verset 51, « Quant à Samarie, elle n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes. » Oups. Chapitre 17, autre métaphore, une énigme, nous dit-on, verset 1er, une fable, Et il est question d'un grand aigle et d'une vigne. Alors vous avez la métaphore au début, une sorte de parabole, si vous voulez, et puis ensuite l'explication dans un deuxième temps, chapitre 17. C'est une métaphore du rapport entre Israël et puis les deux grandes puissances de l'époque. Il y a deux grands blocs géopolitiques. Il y a la Mésopotamie et l'Égypte. La Mésopotamie, à l'époque, c'est Babylone. L'Égypte, c'est l'Égypte. En fait, il y a un troisième bloc qui est le bloc de l'Anatolie, mais qui n'est pas vraiment évoqué dans le livre d'Ézéchiel, peut-être au chapitre 38-39. On verra ça tout à l'heure. Mais dans la plupart des littératures prophétiques, en général, dans l'histoire, à l'époque des rois d'Israël et de Juda, l'Anatolie n'est plus une grande puissance. C'est au deuxième millénaire avant notre ère qu'on a les royaumes hittites. Au premier millénaire avant notre ère, il n'y a plus vraiment de grande puissance. Il n'y a guère que les Assyriens, puis les Babyloniens d'un côté, donc les Mésopotamiens, si vous voulez, et l'Égypte. Et donc, les Israélites, qui sont un peu entre les deux, vont tantôt chercher de l'aide d'un côté et tantôt de l'autre. Évidemment, Dieu leur dit à chaque fois, n'allez pas chercher de l'aide auprès des Mésopotamiens si vous êtes attaqué par les Égyptiens, n'allez pas chercher de l'aide auprès des Égyptiens si vous êtes attaqué par les Mésopotamiens, c'est moi, votre Dieu, qui vais vous donner la victoire. Bon. Chapitre 18, chapitre intéressant, on retrouve un dicton qui a déjà été mentionné dans Jérémie, chapitre 31. Vous l'avez au verset 2. « Les pères mangent des raisins verts, ce sont les fils qui ont mal aux dents. » Autrement dit, les enfants payent pour les fautes commises par les parents. Un côté d'injustice. Et là, on dit, bien non, il n'en sera plus ainsi, c'est celui qui pêche qui mourra. Verset 4. Autrement dit, c'est chacun pour soi. Là, il y a un message très important qui est de dire, attention, on n'est pas simplement pour punir l'ensemble ou globalement des gens qui ne sont pas individuellement coupables, chacun paye pour lui-même. Donc là encore, c'est pour couper court à ceux qui disent « Ah, mais ce n'est pas notre faute qui nous arrive, ce sont nos ancêtres qui sont coupables. » En fait, non, vous êtes coupables. Un très beau chapitre. On retrouve, chapitre 19, une métaphore. Rappelez-vous, chapitre 17, on avait l'aigle, la vigne. Là, on a des lions. Et c'est encore en rapport avec l'Égypte et la Babylonie. Donc, voyez le parallèle avec le chapitre 17. Chapitre 20, on revient sur l'idolâtrie. Vous voyez, c'est une section qui est quand même un peu... c'est cyclique, hein, on revient. Cette idolâtrie, nous dit-on, chapitre 20, elle est répétée, elle est chronique. Ça remonte à l'Égypte, verset 8, hein, verset 7, il est question des idoles de l'Égypte, verset 7, verset 8. Et on nous dit finalement, cette idolâtrie, voilà, vous n'avez rien changé. Et malgré tout, on a beau vous dire, vous voulez être comme les autres. Le chapitre 21 annonce le jugement, avec pour mot-clé, le chapitre 21, c'est la notion de l'épée. C'est l'épée qui arrive. Alors l'épée arrive régulièrement et elle frappe. Il est question, alors voyez une progression géographique, on commence par le Negev, au début du chapitre 21, donc le sud, on remonte vers le nord, donc le royaume de la Judée, si vous voulez, le royaume d'Israël, Jérusalem elle-même, la ville, et puis ensuite on traverse le Jourdain, on arrive du côté des Ammonites. Donc ça c'est le parcours du chapitre 21. Chapitre 22, on sent qu'on arrive à la fin de cette section contre Jérusalem et la Judée, puisqu'on a la liste des crimes de Jérusalem au chapitre 22. Une sorte de résumé. Les idoles, bien sûr, verset 3, verset 4, etc. Mais il y a d'autres choses. Hein. On parle des pots de vin, verset 12, par exemple. On parle de... enfin bref, etc. On parle des prophètes, verset 25. On parle, verset 10, par exemple, de l'immoralité. On expose la nudité du père, on abuse de la femme rendue impure, etc., etc. Donc on condamne les responsables, verset 25, les prophètes, verset 26, les prêtres, etc., etc. Le chapitre 23 reprend ce qu'on avait vu au chapitre 16. On avait vu donc ces deux sœurs qui se sont toutes les deux prostituées, qui représentaient en fait le royaume du Nord et le royaume du Sud. On a la même chose ici au chapitre 23. Deux femmes, filles d'une même mère, donc deux sœurs se sont prostituées. Et puis le chapitre 24 est une conclusion des oracles contre Jérusalem, où là, c'est la marmite, verset 3, autrement dit, c'est cuit. Tu vois, c'est fini. C'en est fini de la ville de Jérusalem. On annonce la destruction, le deuil. Il est question du deuil, donc c'est la mort, c'est fini. Ça sert de conclusion. Et là encore, Ézéchiel doit doter d'attitude particulière. On lui dit, verset 16, « Tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, tes larmes ne couleront pas. » Et on nous dit, verset 24, « Ézéchiel sera pour vous un présage, vous ferez exactement ce qu'il a fait. » La section suivante, chapitre 25 à 32, une succession d'oracles contre les nations. Je vous avais dit tout à l'heure en introduction. Donc c'est un genre littéraire, un topos maintenant assez bien, assez connu. Tout le monde passe en revue. Au chapitre 25, on a les Ammonites, verset 1, les Moabites, verset 8, les Édomites, verset 12. On retrouvera les Édomites au chapitre 35, d'ailleurs. Les Philistins, verset 15. Tyr, chapitre 26. Alors d'un seul coup, Tyr a droit, c'est vraiment hypertrophié, les autres, c'est des petits chapitres, des petits paragraphes comme ça. Alors que là, Tyr, il y a droit tout le chapitre 26, tout le chapitre 27 et pratiquement tout le chapitre 28. Alors on voit la prépondérance de Tyr. Manifestement, on en a vraiment après Tyr. Donc ça interpelle. Hein. Il y a bien sûr des explications qui ont été proposées, pourquoi, etc., etc. Et des explications plus ou moins farfelues. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que parmi les explications qu'on retient, il y a celle de l'origine de Satan. C'est très drôle, chapitre 28 par exemple, qui fait penser à Isaïe 14. Si vous regardez, si vous comparez Isaïe 14 et Ézéchiel 28, vous verrez dans les deux cas, on se plaint. Alors là, ici en l'occurrence, à chaque fois c'est le même problème, c'est le roi ou le prince qui a voulu devenir calife à la place du calife, autrement dit qui a voulu s'élever à la place de Dieu et qui du coup a été condamné, précipité, etc., etc. Et certains disent, ah mais en fait, derrière le roi de Tyr, en fait, on parle de Satan, Lucifer, le diable, etc., qui avant était un ange, etc., etc., et qui a voulu prendre la place de Dieu et qui, du coup, a été déchu. Donc si vous lisez chapitre 28, voyez, vous verrez qu'on peut facilement avoir ce type de lecture de ce chapitre. Cela dit, je rappelle que c'est en plein dans un cycle d'oracles contre les nations et que donc il n'y a aucune raison de considérer que d'un seul coup on change. Non, ce sont les nations. Et d'ailleurs, après Tyr, on passe à l'Égypte au chapitre 29. Vous voyez, donc je pense que ça, ce sont des interprétations ultérieures, secondaires, qui ne sont bien sûr pas le sens voulu par l'auteur. L'auteur ne cherche pas à parler de Satan. Ce serait en plus un peu anachronique à l'époque d'Ézéchiel. Oui, absolument. Non, mais c'est ça. Non, mais cela dit, représenter le roi comme les rois sont divinisés, les rois sont des êtres divins, etc., etc., ils habitent dans la cour céleste. On peut vénérer les Réphaïm à Ougarit, déjà, les rois défunts sont divinisés, on leur offre des présents, etc., etc. Ce sont les Rapa-Houma à Ougarit qui deviennent les Réphaïm en hébreu, et vous les avez, et ils sont mentionnés d'ailleurs dans Isaïe. On vous parle des Réphaïm, alors selon vos traductions bibliques, on parlera des manes, avec un accent circonflexe, on parlera des ombres. Moi, je ne sais pas comment les versions françaises s'en sortent avec ce terme Réphaïm. En fait, on sait maintenant, grâce à la découverte récente, hein, Ougarit, c'était au XXe siècle, on a découvert ce site archéologique qui, je le rappelle, est en face de Chypre, sur la côte syrienne, pas loin de Latakié. C'est là qu'on a compris ce que c'était finalement que ces Réphaïm. Donc, l'idée que de représenter le roi, justement, comme un être divin, alors, peut-être pas un dieu, parce qu'à une époque où il n'y en a qu'un seul, alors du coup les autres dieux ce sont des anges ou des chérubins ou ce que vous voulez, etc. Bien sûr, tout ce vocabulaire, il est parfaitement compréhensible. Mais il ne veut pas dire qu'il s'agit en fait de Satan. Mais cela dit, effectivement, c'est ce qui a permis une lecture secondaire. C'est le fait qu'on dit « Ah, il était un chérubin », c'est évidemment que ça a poussé des lecteurs à vouloir y voir un récit de la chute du diable. Alors donc, chapitre 29, ensuite, c'est l'Égypte. Chapitre 30, hein, on continue, hein, même 31, 32. Donc l'Égypte aussi a droit à un gros paquet. Hein. 29, 30, 31, 32, plus encore que Tyr. Mais là, c'est justifié, puisque l'Égypte, c'est quand même un gros bloc. Ce qui est surprenant, surtout dans ce cycle d'oracle contre les nations, c'est qu'on ne parle pas de Babylone. Par rapport à ce qu'on a vu précédemment, Babylone ne fait pas partie de la liste des nations qu'on va condamner. Et là, à mon avis... c'est pas pour rien, ça veut dire que Babylone, on veut pas dire du mal de Babylone parce qu'au contraire, il y a une partie de la population qui s'est établie à Babylone. Et la question, c'est de dire, est-ce que c'est mal de rester à Babylone ou pas? On verra plus tard dans des livres d'Esdras, Néhémie, par exemple, qu'on dit, allez, il faut rentrer en Judée. Et ceux qui veulent pas rentrer en Judée, on dit, c'est pas bien, il faut rentrer en Judée. Mais là, il n'est pas sûr qu'on ait le même discours. Vous voyez, il y a peut-être une tension, on ne veut peut-être pas trop froisser ceux qui seraient installés à Babylone. Donc on ne dit pas trop de mal de Babylone. En revanche, on dit du mal de l'Égypte et de ceux notamment qui sont tentés d'aller fuir en Égypte. Rappelez-vous Jérémie. Jérémie dit « Non, 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 il ne faut pas aller en Égypte. » Il est plus ou moins contemporain, Jérémie. Hein. Il dit « Ah, il ne faut pas aller en Égypte. » Et puis les gens, ils vont quand même. Le chapitre 33, donc après cette section d'oracle contre les nations, on a le chapitre 33 qui est ce chapitre charnière où on retrouve, c'est intéressant, on retrouve les tout premiers chapitres avec par exemple le récit de la vocation. Par exemple, chapitre 33, on lui dit il est question d'être un guetteur. Hein, verset 2. Donc, on lui dit verset 7, je te nomme guetteur pour la maison d'Israël. Ça, ça vous rappelle le chapitre 3, verset 17, où il disait tu es un guetteur, et en disant voilà, si. Et là, on retrouve la même chose, hein. Verset 8, quand je dirai au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voix, ce méchant mourra dans sa faute, mais son sang, je te le réclamerai. Rappelez-vous, je l'avais dit au début, hein, c'est exactement le même, c'est pratiquement du copier-coller. Et on retrouve également, alors là, sauf que cette fois-ci, on introduit aussi le cas où le méchant, va se repentir. Ce que je désire, verset 11, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de sa voix méchante et qu'il vive. Et ça, c'était déjà dit dans Ézéchiel 18, quand on dit que c'était chacun pour soi. Donc, on retrouve le chapitre 3, et en même temps, on va plus loin en disant, on s'intéresse à la possibilité d'une repentance et de la vie. Hein, verset 15, à la fin, il vivra, il ne mourra pas. Donc c'est ce que Dieu veut. Un autre point parallèle avec le chapitre 3, on l'a au verset 22. Quand Ézéchiel reçoit la nouvelle de la destruction de Jérusalem, donc Ézéchiel est à Babylone, au verset 21, quelqu'un, un rescapé de Jérusalem, arrive et lui dit « La ville a été prise ». Donc on annonce que la ville de Jérusalem a été prise. Donc là, pour le coup, on est en 587. Et là, on dit que Ézéchiel dit à la fin « Ma bouche s'est ouverte, je n'étais plus muet ». Alors ça nous renvoie au chapitre 3, verset 26, où on nous dit justement que Dieu avait demandé à Ézéchiel d'être muet, de ne pas parler, sauf quand Dieu le lui demande. Donc on imagine que pendant toutes ces années-là, les années qui précèdent la destruction, Ézéchiel était enfermé dans un certain mutisme, sauf quand Dieu lui parlait. Et là, sa bouche s'ouvre, il n'est plus muet. Donc vous voyez clairement, on évoque clairement le chapitre 3. Vous voyez comment le chapitre 33 renvoie au chapitre 3. Très clairement, il y a une symétrie, si vous voulez. On reprend certaines choses, il y a un parallélisme, on défait ce qui a été fait. Donc de ce point de vue-là, le chapitre 33 marque vraiment un tournant. Et puis surtout, on va plus loin que la condamnation, on envisage la vie, la repentance, la restauration. Alors, maintenant, regardons rapidement dans les quelques minutes qui nous restent, justement, cette partie qui s'intéresse à un message d'espoir, d'avenir et de restauration. L'avenir, c'est une nouvelle alliance. Chapitre 34, verset 25. Je conclurai pour une alliance de paix. Alors la nouvelle alliance, il en avait été question dans Jérémie, hein, rappelez-vous, chapitre 29, 30, 31, 32, etc. Et surtout, à la tête, je nommerai à leur tête, verset 23, un seul berger qui les fera paître, David, mon serviteur. Donc on attend un descendant de David, un fils de David, quelqu'un qui soit bien un bon berger. Qui contraste avec les mauvais bergers qui sont condamnés au chapitre 34. Voyez, au verset 1er, parle en prophète sur les bergers d'Israël. Quel malheur, verset 2, pour les bergers d'Israël, etc. Donc, le début du chapitre 34, en fait, condamne les bergers, autrement dit, les responsables du peuple. Hein, le berger, c'est la métaphore du leader, du chef, de celui qui conduit le peuple, donc du roi. Alors, au verset 4, si vous regardez le verset 4, vous n'avez pas fait reprendre des forces aux bêtes qui étaient faibles, soigner celles qui étaient malades, penser celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, chercher celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et rudesse. Alors, on devrait donner ce verset à ceux qui veulent être pasteurs. C'est le cas de la plupart des étudiants qui s'inscrivent dans cette fac. Ils veulent être pasteurs. Et ben voilà, un pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait paître le troupeau, il fait reprendre des forces aux bêtes, enfin aux bêtes, pardon, aux paroissiens. Il soigne ceux qui sont blessés, etc., qui sont malades. Il pense ceux qui sont blessés. Il ramène ceux qui s'égarent. Il cherche ceux qui se sont perdus, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est le ministère du pasteur. Le pasteur signifiant, bien sûr, berger, comme vous le savez. Donc, on envisage de nouveaux responsables, à un nouveau responsable, un messie, si vous voulez. Pour le coup, on est vraiment dans la perspective messianique, c'est-à-dire le fils de David, le roi qui a reçu l'onction, qui est fils de David. Au chapitre 35, 36, 37, on envisage la restauration du peuple, qui va récupérer ses terres. Et du coup, on en profite par la même occasion pour condamner les peuples qui s'opposeraient. Vous voyez, au chapitre 35, on parle d'Édom, je l'ai dit tout à l'heure, il était question d'Édom rapidement, ben là on revient sur Édom, on les condamne, on dit mais pourquoi est-ce qu'on condamne Édom? Vous avez la réponse au chapitre 36, verset 5, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier qui se sont donné mon pays en possession. Autrement dit, une fois que le peuple a été déporté, ils ont pris les terres, on va les chasser. Donc on chasse Édom, on chasse les autres pays, on ramène le peuple. On lui donne un cœur nouveau et un souffle nouveau, verset 26, hein, chapitre 36, verset 26. Donc vous voyez cette idée d'alliance. J'ôterai de votre chair, verset 26, le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. C'est fabuleux comme expression. Vous voyez comme image. Verset 28, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Vous retrouvez tout le vocabulaire qu'on avait déjà dans Jérémie, cette idée d'alliance nouvelle, je serai votre Dieu, ils seront mon peuple. Le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, c'est le temple. On va y venir tout à l'heure au chapitre 40. Le chapitre 37 a une fabuleuse vision d'ossements desséchés. Donc c'est l'état du peuple actuel. Il est comme mort, enterré, pas même plus enterré, dispersé, desséché. Et on a cette régénération des ossements qui se rapprochent de la chair qui regrandit dessus. Ils reprennent le souffle de vie. Donc c'est ce que Dieu va faire. Vraiment, le retour du peuple qui est à Babylone, qui va revenir, qui va être restauré dans ses terres, etc., c'est vraiment l'image d'une résurrection. Il va non seulement ramener le peuple, il va même rétablir l'union du peuple. Dans la deuxième partie du chapitre 37, on vient rassembler Israël et Juda, donc après le schisme. Les chapitres 38 et 39 condamnent les ennemis de ceux qui voudraient s'opposer justement au retour du peuple. On parlait tout à l'heure d'Édom, toutes les nations qui se sont partagées les terres, qui empêchent le retour du peuple. Au chapitre 38-39, l'ennemi, l'archétype de l'ennemi, on l'appelle Gog. Et il vient d'un lieu qui s'appelle Magog, du pays de Magog. Alors, ça apparaît comme ça dans Ézéchiel 38-39. Je n'ai pas le temps de détailler ça. Gog est mentionné une fois dans une généalogie. Magog, le pays de Magog, est mentionné dans Genèse 10, etc. etc. On ne sait pas grand-chose. Ça viendrait... On a un certain Gougou en acadien, qui est en fait un certain Giges qui est en Lydie, un roi qui est en Lydie, donc au bord de la mer Noire, dans l'Anatolie, en Turquie moderne, au 8e, 7e siècle avant notre ère, donc pas très longtemps avant Ézéchiel. Et c'est peut-être de là que sont nées ces traditions. En tout cas, là, il représente l'ennemi. D'ailleurs, on va le retrouver dans le livre de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, comme le dernier ennemi à vaincre, celui qui s'oppose à la victoire, etc., etc. Il y a eu tout un tas d'interprétations à travers les siècles. À l'époque romaine, les premiers chrétiens disaient c'est l'Empire romain. Puis une fois que l'Empire romain est devenu chrétien, du coup, Gog ne peut pas vraiment être l'Empire romain puisque c'est nous. Donc finalement, ce sont les barbares, les Goths, par exemple. Hein, on a dit ce sont les Goths, les Visigoths, etc. Et plus récemment, George Bush disait que c'était l'Irak et Saddam Hussein. Voilà, donc j'ai pas le temps de m'apesantir sur l'interprétation, 2000 ans d'interprétation de Gog et Magog. On a eu droit à tout. Bref. Donc ces deux chapitres sont les ennemis, et bien sûr, très clairement, on annonce que les ennemis vont périr, on va restaurer le peuple. Et à la fin du chapitre 39, verset 29, je ne me détournerai plus d'eux, j'aurai répandu mon souffle sur la maison d'Israël, déclaration du Seigneur. Et là, on pourrait s'arrêter là en disant, écoutez, c'est formidable. Ça y est, il ne me détendrait plus d'eux. Et finalement, ça pourrait être la fin du livre, mais les chapitres 40 à 48 décrivent, peut-être là encore un appendice, qui décrit le nouveau temple de Jérusalem. Donc c'est quelques chapitres qui constituent une unité à part entière. Hein. Vous verrez, c'est très différent. Alors, on a cette vision du nouveau temple, et on va parcourir, rentrer à l'intérieur, décrire les pièces. Les chapitres 40 à 42, c'est une description du temple. Le chapitre 43 décrit le retour de Dieu dans le temple. Hein, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous avais dit, Dieu quitte le temple. Eh bien là, il va y revenir, chapitre 43. Au chapitre 44 à 46, on a des règles qui vont régir, bien sûr, les sacrifices, la vie. On parle du prince, on parle des prêtres. On insiste sur le fait que les prêtres, ce sont des fils de Tsadok. Donc là, il y a un élément historique très important, puisque c'est la suprématie de la dynastie de Tsadok qui va donner le mouvement des Sadducéens dans le judaïsme, notamment à l'époque hellénistique. Donc vous voyez là, on touche de près les enjeux politiques d'époque hellénistique en Judée. Et puis le rayonnement du temple, chapitre 47, ce fleuve qui coule, qui purifie, etc., etc. Les 12 tribus, donc on rétablit l'unité de l'ensemble du peuple avec les 12 tribus. Au chapitre 48, on a les frontières des tribus, le partage des tribus, les prélèvements des tribus et les portes de Jérusalem, les 12 portes selon les 12 tribus. Donc là, c'est le symbole par excellence de la réunification des 12 tribus. C'est le côté absolument fabuleux. Et le dernier verset, on nous dit le nom de la ville sera Adonai Shama, Yahvé Shama, c'est-à-dire Yahvé est ici. C'est la présence, c'est le symbole par excellence de la présence de Yahvé au milieu de son peuple, le temple, Jérusalem et le centre du monde. Et cette présentation de nouveau temps de Nouvelle Jérusalem, vous la retrouvez dans d'autres œuvres littéraires plus ou moins contemporaines, légèrement postérieures à Ézéchiel, notamment le rouleau du temple à Qumran, le fameux rouleau du temple à Qumran. C'est exactement ça. Tout craché. Je publie cette année une édition française, bilingue, hébreu-français du rouleau du temple. Donc, d'ici quelques mois, vous pourrez découvrir ça et vous verrez tous les rapports avec Ézéchiel. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.